Mohamed Lkhlifi, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors vous êtes membre du Centre d'études et de prospectives stratégiques basé à Paris, le CEPS. Est-ce que vous pouvez nous parler ce matin un peu, nous présenter ce centre et les centres d'intérêt ?
Le Centre d'études et de prospectives stratégiques est une organisation internationale non gouvernementale qui a été créée un petit peu plus d'une trentaine d'années et qui est reconnue aujourd'hui par l'UNESCO, par le Conseil de l'Europe, par l'OCDE et qui rayonne à travers différentes capitales internationales comme Londres, Bruxelles, Berlin, récemment Shanghai aussi. Le CEPS est implanté en Afrique, à Casablanca et à Abidjan notamment.
Alors, quels sont les centres d'intérêt principaux, les sujets traités par ce think tank ?
En fait, la singularité du CEPS, c'est qu'il fédère en fait essentiellement des membres issus de la sphère des affaires, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprises. On compte un peu plus d'un millier avec une quarantaine de nationalités différentes et on traite de problématiques stratégiques, soit sectorielles, c'est-à-dire sur l'aéronautique, sur l'énergie, sur les médias, sur les télécoms, ou sur des problématiques transverses comme la transformation des entreprises, comme le management, comme les problématiques de ressources humaines. Et pour ce faire, on a des clubs spécialisés, on en a une trentaine qui existent en France, et puis on a des clubs un peu généralistes à Londres, à Bruxelles, à Berlin, et comme je le disais tout à l'heure, à Casablanca, entre autres.
Confluence.
Voilà, exactement. Donc Confluence, et sa vocation en fait, c'est de réunir une trentaine de dirigeants à la fois de France, du Maroc et d'Afrique subsaharienne pour traiter des problématiques d'intérêt commun aux trois zones.
Alors justement, l'Afrique était le centre de débat hier à Casablanca, une conférence avant-hier à Casablanca, une conférence intitulée « L'investissement en Afrique, les opportunités, les risques et les facteurs clés de succès ». Et donc, vous avez eu les témoignages de personnes, d'investisseurs qui ont choisi d'investir en Afrique justement. C'était des histoires plutôt des réussites.
Oui, effectivement, comme d'habitude, on donne la parole à des dirigeants d'entreprise et on essaie à chaque fois d'amener des regards croisés, c'est-à-dire un intervenant de France, un intervenant du Maroc et un intervenant d'Afrique subsaharienne.
D'accord. Alors, quelles sont un peu les conclusions à tirer des témoignages de ce qu'ont raconté ces personnes, justement, sur leur expérience en Afrique ?
Effectivement, le débat était très riche et passionnant, comme vous pouvez l'imaginer. Et par rapport en fait aux questions de notre thématique, tout d'abord au niveau des opportunités, ce qu'il y en a. Sans grande surprise, nos intervenants et puis même les participants qui nous ont fait le plaisir de venir ont confirmé que les opportunités profitables en Afrique existent réellement. Que ce soit dans le domaine des infrastructures, de l'énergie ou dans les domaines de l'éducation, de la santé et le digital. Donc il y a de réelles opportunités avec un vrai potentiel de faire des profits. Néanmoins, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est plurielle. Et donc il y a différents pays, il y a différentes régions avec des politiques qui peuvent être différentes, avec des potentiels et des risques qui peuvent être différents.
Il y a des obstacles, justement. Quels sont les principaux obstacles qui ont été relevés hier par les différents intervenants dans cette conférence ?
Oui, effectivement, ça c'est le sujet qui dissuade effectivement en général pas mal d'investisseurs parce qu'on a encore, on va dire, les anciennes lunettes qu'on porte sur l'Afrique, comme quoi c'est la terre où les choses sont compliquées et les investissements sont difficiles à réaliser. Nos intervenants, et ça a été partagé aussi par la salle, c'est que évidemment, on retrouve les risques classiques intrinsèques à un investissement. Ça existe partout dans le monde. Ce qui nous a intéressé particulièrement hier, voilà, c'est les particularités de l'Afrique. Et sur ce sujet-là, nos intervenants ont insisté effectivement sur le risque politique qui est présent avec acuité en Afrique. Et puis, on va dire, un risque un peu de pratique, un peu pas très orthodoxe ou pas facilitante en termes de doing business.
Du climat des affaires.
Voilà, le climat des affaires, exactement. Donc, un manque de transparence.
Alors,
excusez-moi. Et puis, l'appareil judiciaire qui n'est pas forcément accompagnant et aidant pour les investisseurs.
par rapport au risque politique, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est un peu amenuisé ces dernières années en Afrique?
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a des signaux favorables?
Globalement, tendanciellement, c'est vrai que la situation n'a rien à voir avec la période d'il y a 20 ans, 25 ans. On voit un peu partout des transitions politiques qui se passent d'une manière pacifique et qui vont dans le bon sens. On voit l'émergence de jeunes dirigeants qui veulent aller de l'avant et qui veulent insuffler une nouvelle dynamique. Donc ça a été souligné par nos intervenants. Néanmoins, il reste encore quelques endroits où la stabilité politique est toujours là. Donc, mais bon, il faut faire avec, il faut faire un peu son marché, comme on dit. Et là, la parade qui a été partagée un peu par tous les intervenants et les participants, c'est qu'en fait, il faut revenir au basique d'un investissement. C'est la division des risques. C'est qu'on ne met jamais tous les œufs dans le même panier.
Portefeuille, oui.
Voilà. Et donc, la meilleure manière d'investir en Afrique, c'est de diversifier ces pays-là. Et comme ça, comme ils ne vont jamais tous, on va dire, se planter de la même manière, et comme les pays sont différents, les coûts d'investissement sont différents, etc. Et donc, quand un pays va mal, y a d'autres pays qui vont mieux, et donc et ça peut se compenser dans l'ensemble.
Alors, par rapport au deuxième point que vous avez évoqué, le climat des affaires, il y a peut-être une différence entre les différents pays par rapport à ce critère, ou finalement ça reste problématique à tous les pays africains?
En fait, globalement, on va dire, sans raison, dans l'ensemble, globalement, c'est un point faible du continent. Mais après, évidemment, il y a des disparités. L'Afrique de l'Ouest, c'est pas l'Afrique de l'Est. Puis il y a des pays qui tirent leur épingle du jeu.
Et le principal frein reste.
Le frein, en fait, c'est un petit peu ces pratiques, un peu.
La corruption.
Qui ne sont pas transparentes et qui sont amenées, en fait, à changer. Pour donner plus de confiance aux investisseurs. Mais nos intervenants et les participants ont insisté sur une parade, un peu sur ce qu'on peut appeler un facteur clé de succès, c'est de s'appuyer sur des partenaires locaux, évidemment professionnels et fiables. Et ces partenaires, en fait, aident les investisseurs étrangers, en fait, à mieux gérer leurs investissements.
Alors...
et à les réussir.
Alors justement, Mohamed El Khlifi, ça nous ramène à la dernière question. Comment réussir ces investissements en Afrique? La question a été posée également lors de cette conférence tenue à Casablanca. Justement, connaître la culture d'un pays, c'est essentiel pour un investisseur, surtout en Afrique.
Oui, effectivement, nos intervenants ont insisté là-dessus. C'est qu'en fait, même l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, est plurielle. Il faut bien comprendre son marché, bien comprendre ses besoins. Dans le détail, il ne faut pas rester, on va dire, un peu dans la stratosphère, dans les généralités. Et d'ailleurs, nos interlocuteurs hier nous ont dit qu'il y a des investissements, des projets qui ont réussi dans des pays d'Afrique, et on les a transposés tels que ils n'ont pas réussi dans des pays voisins. Donc en fait, comme on dit, le diable est dans le détail. Il faut très bien comprendre son marché et essayer d'apporter les solutions adéquates à chacun des marchés.
Alors justement, comment faire pour terminer, comment faire pour avoir une idée précise sur la culture, sur comment ça marche pour une entreprise dans un pays donné? Il faut avoir recours à des cabinets avant d'investir pour avoir justement une idée globale et précise?
Effectivement, certains cabinets de conseil notamment peuvent aider. Les banques peuvent aider aussi, parce que souvent les banques qui sont déjà implantées, par exemple je prends le cas marocain, les banques marocaines qui sont présentes dans pas mal de pays africains ont une connaissance intéressante en fait des marchés locaux, donc ils peuvent servir pour accompagner des investisseurs. Mais la clé c'est les équipes. Il faut trouver des partenaires professionnels et fiables, et trouver des compétences locales de qualité. Si vous avez ça, vous allez réussir vos stratégies, vous allez réussir votre investissement. Ce qui est rassurant, ça veut dire que c'est l'humain qui reste au cœur de la réussite.
Et sur ce, on arrive à la fin de cette interview. Mohamed El Khlifi, je rappelle que vous êtes membre du Centre d'études et de prospectives stratégie, un think tank basé à Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci madame.